possédant toutes choses. Je suis certainement très reconnaissant d'être ici. J'apprécie les prières que vous avez faites quand vous avez su que j'avais eu ce petit accident. Cela nous fait simplement voir que Satan ne peut pas nous prendre tant que Dieu n'est pas prêt. Et je pense que beaucoup d'entre vous se demandent ce qui est arrivé. J'ai toujours été favorisé. Comme vous le savez, mon passe-temps favori ou ma manière de me reposer, c'est ou d'aller à la pêche, ou d'aller au champ de tir et de tirer, ou d'aller à la chasse, ou quelque chose de ce genre. J'en suis heureux. Si je jouais au golf, ce serait là-bas où les femmes sont à moitié nues. Et si j'avais été un joueur de baseball, vous savez ce que cela serait. Mais je suis heureux que ce soit en plein air, comme la pêche, la chasse, etc. J'ai toujours aimé ces fusils Weatherby Magnum. Et je crois que quelqu'un m'en aurait acheté un si j'en avais parlé, mais je n'en ai rien dit parce qu'il aurait fallu y mettre trop d'argent, alors que je connais des missionnaires qui n'ont pas de chaussures à se mettre aux pieds. Et comment laisser quelqu'un payer pour cela, prendre tout cet argent pour acheter un fusil? Frère Art Wilson a donné à Billy, ici derrière, un modèle Winchester 70, il n'y a pas longtemps, et un Roberts 257. Et Monsieur Weatherby a fait paraître une notice comme quoi on pouvait faire simplement une petite modification à ce fusil et en faire un Weatherby Magnum et absolument sans danger. Aussi, frère Rodney qui vient ici à l'église, frère Rodney Armstrong l'a envoyé pour le faire transformer en un Weatherby Magnum. Ce qui est arrivé, c'est qu'il n'a pas été bien transformé. Aussi, quand j'ai tiré, la compagnie Winchester dit que leurs fusils peuvent supporter une pression de 31 kilogrammes. Vous savez ce que ce serait. Et j'avais juste levé mon fusil. Frère Wood était venu là-bas avec moi et le fusil était environ à 3 centimètres de mon œil, comme ceci. Et la pression projette 31 kilogrammes sur 50 mètres. Le canon du fusil est parti en direction de la ligne des 50 mètres. La culasse a reculé, comme ceci. Et le fusil s'est tout simplement désintégré entre mes mains. Juste un jet de feu à peu près haut, comme le plafond ici, et c'est à peu près tout ce que j'ai réalisé pendant une seconde ou deux. Et quand je suis revenu à moi, le sang jaillissait aussi loin que cela, et je pensais que j'avais été tué. Aussi, j'ai en quelque sorte élevé mes mains comme ceci pendant un moment. Et frère Wood, j'ai essayé de regarder, mais je ne pouvais pas voir de cet œil-ci, et je ne pouvais pas entendre du tout. Je me sentais comme si je marchais dans les airs. Et je voyais frère Wood aller vers la cible pour voir si où la balle avait frappé. Et j'essayais d'attirer son attention. Puis il arriva et nous partîmes. Et les plombs s'étaient logés tout autour de l'œil. Mon visage était exactement comme si on y avait lancé un hamburger, là où l'explosion avait atteint mon visage. Et un grand et gros morceau était planté juste au-dessus de l'œil. Et cela faisait un cercle juste autour du sinus et du crâne ici. C'est le docteur Adair qui les a retirés. Et quelques jours plus tard, bien sûr, le jour suivant, Doc vint lui-même à l'hôpital. On m'a envoyé un spécialiste des yeux. Juste sous le siège de la vue, il trouva un cercle composé de 30 plombs environ qui avait pénétré profondément dans le globe oculaire. On ne peut pas les enlever. Les plombs ont pénétré. Ils sont passés à côté du nerf optique et ils ont fait un cercle tout autour comme cela. Il a dit « Tout ce que je sais », il écrivit une lettre au docteur Adair et dit « Dieu devait être assis sur le banc avec lui pour protéger son serviteur, sinon il ne lui serait rien resté de toute sa tête. Et tout ce que frère Wood aurait trouvé de moi aurait été le bas de la taille au pied, voyez-vous. Cette pression qui s'exerçait à reculons, je ne sais pas comment cela est arrivé, mais cette grosse et lourde culasse du fusil modèle 70 a été projetée en arrière, si vous savez où est le Conservation Club, jusqu'à l'enclos des biches. Et il y a une partie du fusil que nous n'avons jamais retrouvée. Ainsi, cela arrive pour nous montrer quelque chose. Je ferai un sermon un jour sur ce sujet, Dieu voulant. Sur une conversion, c'est bien, mais restez à votre place. Si on n'est pas prédestiné à la charge prise, cela explosera à chaque fois. C'est juste. Aussi, n'essayez pas de « il vaut mieux être l'original ». Ne pas se moquer de... Une sœur parle dans l'auditoire, note de l'éditeur. Maintenant, regardez, voyez, c'est... Oh, évidemment, vous pouvez imaginer que les choses seraient dites comme cela. Mais autant que je sache, il n'y a pas une seule chose. Bien sûr, mes oreilles, vous pouvez imaginer, elles résonnent encore quand ce microphone a un retour. C'est pourquoi je n'étais pas ici ce matin. Vous parlez, vous l'entendez exploser par deux fois. On m'a emmené chez le spécialiste, il m'a dit, votre tympan n'est même pas enflammé. Puis ensuite, l'œil, il dit, vous aurez exactement la même vue que vous aviez. Il dit, c'est entré sous le nerf optique, et cela a fait un cercle autour du globe oculaire, et cela s'est enfoncé. Il dit, vous garderez toujours les plombs. Je dis, j'en ai eu depuis l'âge de 2 ans, c'était pour autre chose. J'ai appelé frère Robertson, qui est là derrière, et je lui ai raconté. Il dit, ne vous en faites pas, moi j'en ai 1 ou 2 kilos dans le corps, dit-il. C'est un vétéran de la guerre, cela ne fera pas mal, j'en ai beaucoup. Et je me souviens de la vision du Seigneur, il n'y a pas longtemps. Vous souvenez-vous me l'avoir entendu raconter ici? La douceur du Seigneur ce matin-là, il dit, ne crains rien, où que tu ailles, ou quoi qu'il arrive, car Jésus-Christ, dont la présence ne manque jamais, est avec toi où que tu ailles. Ainsi, il ne peut pas, Satan ne peut pas me tuer sans que Dieu ne le lui dise. C'est terminé. Voyez-vous, il peut essayer, mais il ne réussira jamais à le faire. Puis, ce qui est étrange, de toute façon, j'ai continué. Je suis allé à ma réunion. Je voyais de l'œil gauche, et de toute façon, je suis allé à la réunion. Puis, le frère qui allait à la réserve indienne a dû annuler cette réunion-là et la différer jusqu'à ce que je retourne à la côte ouest et que je m'y rende. Aussi, nous allons à la réunion là, et pendant ce temps, frère Argan Brahit a retenu pour moi, et donc, lorsque cette réunion sera terminée, j'irai à Anchorage, Alaska. La raison pour laquelle je suis si dépendant, beaucoup d'entre vous se souviennent de la vision que j'ai eue quand j'avais tiré un grizzly de 9 pieds de haut, et l'Église se souvient que je l'ai raconté ici, et le caribou, j'en ai eu une autre. Souvenez-vous, ceci est enregistré ici. J'avais vu un grand et gros ours brun. C'était peut-être un Kodiak. Cela n'aurait pas pu se faire là-bas au Canada, parce qu'il n'y en a pas là-bas. Mais où que ce soit, cela arrivera. C'est ainsi dit le Seigneur. Cela arrivera, voyez-vous. Et maintenant, je vous remercie d'avoir prié pour moi. Je savais que beaucoup d'entre vous prieraient en apprenant que j'avais été blessé. Un petit groupe qui est juste, ma fille Rebecca, qui est là derrière, a écrit une lettre à sœur Dao, qui vient ici à l'église et lui a raconté. Et elle a appelé Meda 2 soirs plus tard et a dit, je ne sais pas si cela a aidé ou non, mais tout notre groupe ici s'est réuni. Le pasteur méthodiste et frère Brown, leurs parents et tous se sont réunis et ils ont prié pour moi toute la nuit. Il dit, je ne sais pas si Dieu nous a entendus ou non, mais nous savons que frère Branham a prié pour tout le monde. Nous avons pensé à prier pour lui. C'est ce genre de prière qu'il entend, voyez-vous? Oui, monsieur, ce genre-là. Frère Chris, un de nos frères ici, Satan était justement après lui récemment. Il heurta un pont. Oh, il fut coupé. Je ne sais pas comment il a pu s'en sortir vivant. Et donc, il était couché là-bas à l'hôpital, et il dit qu'il y avait un petit frère appelé Metcalf qui venait de la Nouvelle-Albanie, et il dit, frère Chris, je ne suis pas digne de venir prier pour vous. Mais dit-il, le Seigneur l'a simplement mis sur mon cœur et je ne peux pas faire autrement. Et il vint, il s'agenouilla, il dit une petite prière et il sortit. Et Dieu a guéri frère Cué, juste là, voyez-vous? Mais voyez, c'est le don de guérison dans le corps de Christ. Vous voyez, d'un membre pour un autre. Ne pensez pas parce que vous n'êtes qu'un membre laïque, vous êtes un membre aussi bien que quelqu'un d'autre. Cela est autant mon doigt que ce bras est mon bras ou que cette oreille est mon oreille, voyez-vous? C'est simplement un membre du corps. Et nous tous, si un membre souffre, tous les membres souffrent. Une unité, quelle unité bénie. Comme je puis après cela maintenant, j'ai accepté quelques autres réunions. J'ai gardé un peu de temps pour une soirée encore avec le tabernacle, le Seigneur voulant. Et Dieu voulant, dimanche prochain matin, je veux parler sur la trace du prophète. Et puis au tabernacle. Et demain soir ou dimanche soir, je suis au Gospel Tabernacle, c'est un de nos frères, frère Rudel. Je veux parler sur le sujet, échapper à la pression, le Seigneur voulant. Et puis le mardi suivant, nous devons partir pour le Wisconsin, avec la convention régionale des hommes d'affaires du plein évangile. Et j'y serai pour 3 soirées. C'est à Billy, comment s'appelle cette ville? Green Lake, Wisconsin, quand? Jeudi, vendredi, samedi, les 17, 18 et 19 à Green Lake, Wisconsin, la convention régionale. Et puis le dimanche 20, je suis à Chicago, à l'auditorium du lycée, le même auditorium où nous étions la dernière fois. Vous souvenez-vous du nom? L'auditorium du lycée Stéphane Mater, dimanche après-midi. Puis le lundi, je suis à... J'oublie le nom de cet endroit où le Seigneur m'a montré la convention cette fois-là, au sujet de l'association de ministres de Chicago qui me rencontrait pour discuter certains sujets, vous savez. Et je dis, et le Seigneur m'a soutenu à cet endroit. C'est un meeting d'adieu pour frère Joseph Bosé qui doit venir ici demain par avion pour me voir et une réunion d'adieu pour lui lundi. Puis nous reviendrons aussitôt à la maison et repartirons, car ce sera le moment de partir à Southern Pines, Caroline du Sud, ou Caroline du Nord. Puis nous descendrons à Columbus, Caroline du Sud, et ensuite au Cow Palace, sur la côte ouest. Puis ensuite nous passerons par Grass City pour remonter vers le Spokane et vers le Canada, puis en Alaska. Aussi, mettez-vous en prière pour nous. Nous avons vraiment besoin de vos prières. Et on nous enseigne dans l'Écriture que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois qu'à cause de ceci, et voyant la loyauté des gens, etc., quelqu'un a dit, comment cela peut-il arriver et Dieu le permettrait-il? J'aurais pu être tué sur la route en allant là-bas d'une façon ou d'une autre. Il avait quelque chose pour l'éviter. Rappelez-vous que les Écritures ne peuvent faillir. Toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si je connais mon cœur, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Et cela nous rapproche davantage. Et de penser maintenant que tous ceux qui en ont entendu parler ne peuvent pas comprendre comment il se fait que j'ai encore ma tête et mon épaule, voyez-vous? Et dire que j'étais en plein cœur de l'explosion. Et ceci tout près de moi, c'était certainement une explosion de près de 1000 kilogrammes en pleine figure. Voyez-vous? C'est suffisant pour vous désintégrer, voyez-vous? Pour tout balayer. Si cela a fait éclater ce lourd fusil d'acier et a projeté le canon jusqu'à la ligne de 50 yards et la culasse, je voudrais que vous voyiez le fusil. Il n'a plus l'air d'un fusil, ce ne sont plus que des morceaux. Et dire que je m'en suis sorti sans une égratignure, gloire soit au Dieu vivant. Juste assez pour m'empêcher d'aller là-bas avant que n'arrive le mot d'Eddie m'avertissant que je ne devais pas y aller à ce moment-là. Grâce merveilleuse, quelle est douce la voix qui sauva un misérable comme moi. Et il faut que nous sachions cela pour apprécier que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, et comme nous en sommes reconnaissants. Maintenant, j'ai dit ce matin que je pensais venir, alors le précieux frère ici, quand je suis revenu, j'ai dit à Sir Wood, aujourd'hui, je crois que frère Neville, Billy m'a appelé et m'a dit, écoute le message si tu peux. Et je crois qu'un petit morceau de métal s'était déplacé, était tombé derrière l'œil, et cela m'était vraiment très désagréable. Mais il est sorti maintenant. Il est sorti par un lavage. Et alors il a dit, ce soir, je pensais descendre, et ce précieux frère, qui prêchait certainement comme cela, je sais ce que c'est, quand vous avez un service important et que vous êtes complètement enroué, vous savez, et que la gorge vous brûle et vous fait souffrir. Aussi, j'ai pensé que j'allais descendre et choisir quelques lignes des Écritures pour les lire. Je pensais, c'est un soir de communion. J'ai toujours le désir de prendre la communion. Puis j'ai eu un couple d'amis, ils sont ici quelque part. Comme vous devez le comprendre, je ne vois pas bien clair. J'ai encore de la belladone dans cet œil qui est dilaté. C'est juste un peu flou. Et ainsi, les amis et les parents de mon cher et précieux frère dans la gloire, F.F. Bosworth, sont ici. Aussi que le Seigneur bénisse ces personnes. Nous venons de prier pour eux dans la pièce de derrière. Maintenant, n'oubliez pas, mercredi soir, c'est notre réunion de prière du milieu de la semaine. Et je crois que jeudi soir, c'est frère Jackson et frère Junior ici, ou plutôt c'est frère Ruddle qui est là. Mercredi soir, et le tabernacle à Utica, c'est mercredi et jeudi soir. Et ensuite, de retour ici, dimanche matin, pour un service. Et maintenant, et dimanche soir, je dois aller avec frère Ruddle. Je voulais le faire un mercredi soir, mais la semaine suivante, mais je ne peux pas le faire. Aussi, j'ai dû le mettre dimanche soir. Mais maintenant, les personnes ici au tabernacle restent simplement au tabernacle, voyez-vous, parce que je vais chez frère Rudolph ce soir-là, simplement pour parler, pas pour un service de guérison. Eh, mais souvenez-vous, restez juste à votre poste, juste ici, au tabernacle. C'est votre place, voyez-vous? Et ainsi, nous attendons à passer un bon moment. Et aussi, vous priez tous pour nous pendant ce temps. Mais nous nous attendons à ce que Dieu nous rencontre ce soir, maintenant juste avant la communion. Et maintenant, je pense, est-ce là toutes les annonces que nous avions à faire? Maintenant, montrons le chemin. Comment, frère?
Frère Neville parle à frère Branham, note de l'éditeur.
Un ensevelissement, oh oui, l'ensevelissement de... Un de nos frères évangélise ce tabernacle ici, est juste, eh bien, il est un des nôtres. Il part, il enseigne et prêche à un frère, J.T. Parnell. Sa chère maman est morte la nuit dernière, une petite maman courbée aux cheveux gris. Et je serai à Edmonton, Kentucky, l'ensevelissement a lieu demain. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous voulaient acheter des fleurs pour elle, mais nous n'avons pas pu. Et la seule façon d'avoir des fleurs là-bas, c'est de téléphoner et que le facteur aille les chercher. Et il faudrait aller les chercher demain, qu'elles arrivent ou non, aussi c'est compliqué. Mais nous voulons certainement apporter notre sympathie, frère, à notre frère Parnell qui vient de perdre sa mère, et je suis aussi passé par là récemment. Et je suis sûr que Sir Spencer et beaucoup d'autres ici qui apportent leur sympathie sont récemment passés par l'ombre et le chagrin. Maintenant, courbons la tête un moment pour la prière dans sa présence. Maintenant, je voudrais que vous priez pour moi, et c'est un peu difficile ici, ce soir, essayant de voir, et cette lumière floue, et mon œil va bien, mais on y a mis de la belladone pour le dilater. Vous savez ce que c'est. Et voilà 6 jours que cela dure maintenant, voyez, et il a dit que cela pourrait encore durer 8 ou 10 jours. Aussi, vous priez pour moi. Et aussi l'écho de ce microphone contre le mur, priez pour moi. Et si je pouvais voir votre main, et Dieu, si vous avez une requête, levez simplement la main. Dieu répond aux prières, alors que nous sommes solennellement assemblés et que nous courbons la tête maintenant. Notre Père Céleste, c'est toi qui as choisi que nous soyons rassemblés ensemble. C'est la volonté de Dieu que nous nous rassemblions alors que le jour approche, et que nous le fassions régulièrement, Seigneur. Et que nous soyons plus près de toi et plus près les uns des autres dans un lien de communion fraternelle au travers du sang répandu de Jésus qui rend ce lien possible. Nous sommes si reconnaissants ce soir, Seigneur. Je n'ai jamais été aussi reconnaissant d'être ici, Seigneur. Et je t'en suis tellement gré. Je ne peux pas trouver les mots pour exprimer ma reconnaissance de voir et d'entendre et d'être parmi les vivants ici sur terre. Pour continuer à prêcher l'Évangile. Nous apprécions tant, Seigneur, quand nous voyons que c'était si près que seulement, quand des hommes de grand savoir se grattent la tête et disent seulement, comment est-ce possible? Il n'y a que la main de Dieu. Alors je courbe la tête dans l'humilité, Seigneur, en voyant que ce miracle m'a été accordé, qu'il a été accompli là où se tenait ton serviteur. Je suis si reconnaissant. Et maintenant, Père, je consacre à nouveau ma vie à ton service après être descendu là-bas. Il n'était pas possible, étant vivant, d'être si près de la mort et pourtant de vivre. C'est pourquoi je te remercie. Et maintenant, je prie pour toutes ces personnes qui ont levé la main ce soir. Chacun avait quelque chose à demander, et beaucoup d'entre eux te rendaient grâce, presque tous saignant dans leur cœur pour ce que tu avais fait pour eux aussi. Maintenant, nous sommes venus ce soir nous réunir pour une raison tout à fait spécial, pour prendre ce que nous appelons la communion ou le souper du Seigneur. Communier, c'est parler avec ou converser avec, et c'est ce que nous faisons maintenant, Seigneur. Converser avec notre Seigneur, communier, parler, et attendre qu'il nous réponde. Et maintenant, Père, nous te prions de communier avec nous ce soir par ta parole écrite, et donne-nous quelque chose dans nos cœurs, affermis notre course, Seigneur, et redonne-nous du courage. Et bénis notre pasteur, Seigneur, notre précieux frère, ton serviteur, son épouse et sa famille, les diacres, les administrateurs et tous ceux qui viennent à l'église. Ô Dieu, attire-nous plus près de toi. Comme dit le poète, que béni soit le lien qui nous unit dans un amour chrétien. La communion de nos âmes est semblable à celle qui est là-haut. Accorde-le, Seigneur, bénis tous les autres adorateurs dans le monde. Brise pour nous le pain de vie, alors que nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous le demandons. Amen. Maintenant, beaucoup de gens aiment noter les passages que lit le prédicateur, et j'ai cet après-midi, après être sorti avec frère et sœur Wood, nous avions été voir notre frère Gobel Robertson, et nous l'avons vu dans sa salle d'exposition. Nous sommes revenus et je pensais, sœur Wood me disait que le message de notre pasteur ce matin était vraiment merveilleux. Et j'ai simplement pensé que le pauvre malheureux devait avoir mal à la gorge, et j'ai mal moi aussi. Mais j'ai pensé que peut-être nous pouvions partager ceci s'il me demandait de parler. Et j'ai pris quelques notes ici sur lesquelles j'aimerais parler. D'abord, prenons 2 Corinthiens 6, 7 à 10. 1 Corinthiens, le 6e chapitre, versets 7 à 10 compris. Puis Genèse 14, 18 à 19. Et en tirer, Dieu voulant, un contexte du texte. Et maintenant, je vais lire dans la première, ou 2 Corinthiens en premier, 2 Corinthiens 6, 7 à 10. Par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de justice de la main droite et de la main gauche, dans la gloire et dans l'ignominie, dans la mauvaise et dans la bonne renommée, comme séducteur et véritable, comme inconnu et bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtillé et non mis à mort, comme attristé mais toujours joyeux, comme pauvre mais enrichi, sont plusieurs, comme n'ayant rien et possédant toutes choses. Genèse 14, 18 et 19. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham de par le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. » Et si je donnais un texte, je voudrais parler sur le sujet « possédant toutes choses ». Comme dans les Corinthiens ici, il est dit que nous sommes pauvres et pourtant nous possédons toutes choses. Possédant toutes choses. Maintenant, j'aime cela. Maintenant, dans la Genèse, nous voyons la rencontre d'Abraham avec ce grand homme appelé Melchisédek, qui possédait le ciel et la terre. Alors, il possédait toutes choses. Il possédait le ciel et la terre, c'est-à-dire toutes choses. Maintenant, nous connaissons l'histoire d'Abraham et ce qui est arrivé. Il avait été appelé à l'obéissance. Il avait été appelé hors de son pays, le pays des Chaldéens, et la cité d'Ur où il était avec son père et son peuple. Et c'est dans la vallée de Shinéar, une terre probablement riche et fertile, et Abraham, comme nous le voyons, n'était pas un homme remarquable aux yeux du monde. Au contraire, il n'était ni un roi, ni un monarque, ni un potentat. Il était un homme simple. Et il avait épousé sa demi-sœur Sarah, et il l'avait probablement épousée alors qu'elle était jeune. Et Dieu l'appela à l'âge de 75 ans pour une vie de service avec sa compagne. Et nous pourrions partir d'ici. Je crois que lorsque Dieu appelle un homme à son service, si c'est un homme marié, qu'il a une compagne, il appelle sa femme avec lui, parce que les deux ne font qu'un. Et aussi, où que ce soit, nous voyons plus tard que Dieu probablement aurait tué Sarah quand elle douta du message de l'ange. 25 ans plus tard, quand ils étaient assis sous le chêne ce jour-là, mais quand elle rit lorsque l'ange lui dit, ou dit à Abraham, qu'elle allait être mère, et Sarah rit en elle-même, elle dit, « Comment le pourrais-je, je suis vieille, 90 ans, et son mari 100 ans ?» Ses entrailles étaient desséchées depuis des années, son corps à lui presque mort. Alors, comment pourrait-elle encore avoir du plaisir avec son mari? Elle rit en elle-même. Et l'ange, le dos tourné à la tente, dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Elle le nia. Maintenant, c'était dire à Dieu en face qu'il se trompait, voyez-vous. Et cela lui aurait coûté la vie, mais Dieu ne pouvait pas prendre Sarah parce qu'elle était une partie d'Abraham, voyez-vous. Elle était dans l'alliance avec lui. Aussi, elle devait aller avec lui. Ainsi, il ne pouvait pas prendre Abraham, ou plutôt prendre Sarah sans prendre une partie d'Abraham, car ces deux sont un. une belle représentation de nous aujourd'hui, indignes, dignes de mort quand nous péchons. Mais Dieu ne peut pas nous tuer parce qu'il, nous sommes une partie de Christ, voyez-vous. C'est par grâce, parce que nous sommes en union avec Christ. L'union avec Christ, n'est-ce pas? Une belle pensée. Ainsi donc, quand nous faisons des péchés, nous devons les confesser tout de suite, que c'est mal, parce que Dieu prendrait notre vie. Mais le sang répond à notre place. Eh, Dieu ne peut pas aller contre ce sang, voyez-vous. Il ne peut simplement pas le faire, parce qu'il a promis qu'il ne le ferait pas. Ainsi, il ne peut pas briser sa propre promesse, voyez-vous. Ainsi, Dieu sait, pour ainsi dire, lier lui-même, voyez. Il ne peut briser sa promesse, et il a promis qu'à travers ce sang, quiconque croirait aurait la vie éternelle, et il ne peut pas briser sa promesse. Ainsi, nous voyons qu'Abraham, par obéissance, quitta sa maison, quitta son pays, et se sépara de toute chose, de toute sa situation terrestre, toutes ses possessions, pour voyager dans un pays étranger et y séjourner. Un type de l'Église. Il nous est demandé d'abandonner tout ce qui est dans ce monde pour suivre Christ. Maintenant, nous voyons Abraham continuant d'année en année. Et il emmena avec lui un bien qui était son père, et il mourut aussitôt. Et ensuite il prit son neveu qui était Lot, et Lot se sépara pour éviter les discussions. Et il descendit vivre à Sodome. Pourtant, il était une partie d'Abraham. Et Dieu donna le pays et tout ce qui était dans le pays à Abraham. Il hérita de tout. Dieu dit, regarde à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, tout cela t'appartient et à ta semence, après toi, tout à toi. Maintenant, les choses furent un peu difficiles pour Abraham, mais pour Lot c'était facile. Pas aux gens dans le péché. Comme c'est facile, et comme le péché paraît agréable, et comme il paraît innocent. Maintenant, si Lot dit ceci, aussi longtemps que je crois en Dieu. Aussi, pourquoi ne pourrais-je pas descendre ici dans Sodome? Eh, c'est bien, je suis un croyant. Mais ce n'était pas bien. Voyez, Dieu, quand il appela Abraham, il l'appela à se séparer de toute chose. Et c'est ce que nous devons faire. Dieu nous appelle à nous séparer complètement du péché. Sors du milieu d'elle, n'y participe pas. Fuyez le mal. Fuyez-en même la simple apparence. Éloignez-vous-en complètement, séparez-vous, tenez-vous à distance de lui, ne marchez pas sur son terrain, peu importe combien il paraît agréable. Vous pouvez penser ici maintenant, voici frère Branham, je suis parfois tenté de voler ou parfois de fumer, ou quelquefois les femmes pensent, je suis tenté de m'habiller comme les gens du monde, vous savez les vêtements indécents et toutes ces choses, je suis tenté, les jeunes femmes. Maintenant vous pensez que c'est tentant. Et que diriez-vous alors ici, dans un ministère où vous devez prendre garde à la moindre petite action, vous voyez? C'est une bien plus grande chose ici. Et on aura à répondre pour beaucoup plus. Parce que vous avez à répondre pour votre âme, mais nous avons à répondre pour tous ceux à qui nous parlons, voyez-vous? Oh, si Satan constamment, eh bien vous dites, cette petite robe n'est-elle pas jolie? Ce ne serait pas bien de la porter, mais elle est vraiment belle, elle m'irait très bien. Oui, c'est pour moi. Maintenant, cela, vous savez que c'est mal. Mais dans un ministère, c'est, tu devrais aller à cette réunion ici, c'est très bien. On dit que c'est si extraordinaire la congrégation. Et pourtant, vous devez attendre que Dieu vous dise, vas-y, voyez. Oh, iriez-vous là-bas voir cette personne? C'est ceci et cela. Vous devez prendre garde, faire attention, voyez-vous. Oh, c'est tellement rusé. Et maintenant, il nous faut prendre garde à ces choses. Maintenant, Abraham devait prendre garde également. Mais lui, au lieu de descendre à Sodome avec Lot, il se sépara, il monta au désert, il prit le chemin avec les quelques méprisés qui sont au Seigneur. Cela devrait être notre attitude. Prenez le chemin avec le peuple de Dieu, sans vous préoccuper de la difficulté. Avancez de toute façon, soyez prêts à partir n'importe quand, maintenant, où qu'il vous appelle. Maintenant, après que ceci soit arrivé, alors voici un roi qui partit en campagne avec quelques-uns de ses hommes. Il s'abattit sur la vallée, il prit tous les petits groupes, tous les petits royaumes, il vint à Sodome, il prit le roi de Sodome et Gomorre, il prit Lot, le neveu d'Abraham, sa femme, ses filles, ses enfants, tout le monde et tous leurs biens, tout ce qu'ils avaient, il balaya tout, nettoyant le pays sur son passage. Oh, quelle chose horrible! Le salaire du péché, c'est la mort! Et Lot s'en rendit compte, sans doute, marchant là-bas, et avec peut-être une corde ou une chaîne autour du cou, comme un esclave, ses enfants, des jeunes filles qu'on enlevait, sa femme, et tout, et probablement la mort à tout instant. Il désobéit à un seul ordre, et peut-être partait-il dans un autre royaume, quelque part esclave pour le reste de sa vie. Mais Abraham, quand il découvrit que Lot avait été pris, lui qui faisait partie de la possession d'Abraham, et Abraham aurait pu dire ceci, « Dieu, tu m'as dit que si je t'obéissais et que si je venais ici dans ce pays, tu me donnerais tout ceci. Cela m'appartient. Lot en fait partie et je vais aller le chercher. » Aussi il mit en garnison, ou plutôt il rassembla ses serviteurs et leur fit prendre les armes. Et il prit ses serviteurs, il poursuivit, il trouva ce roi avec tous ses autres petits royaumes. Voyez, quelle grande armée ils étaient alors. Mais sous la direction de Dieu, le général en chef, il se sépara, il tomba sur eux, il massacra les rois, et il ramena Lot et tous les petits royaumes, il les ramena dans leur patrie. Quelle image de Christ en Abraham, qui arriva après que l'ennemi ait tout capturé, et Christ vint et nous ramena. Maintenant, nous voyons dans cette grande histoire qu'Abraham, sur le chemin du retour, revenant après la victoire, rencontra le possesseur du ciel et de la terre, Melchisédek, qui est le roi de Jérusalem et qui est le roi de paix et roi de justice. Il n'avait ni père ni mère, n'avait pas de commencement et n'aura pas de fin. Aussi, ce n'était personne d'autre que le Tout-Puissant. Et il le rencontra en revenant du massacre des rois. Il rencontra le possesseur, celui à qui appartiennent toutes choses. Il le rencontra sur le chemin du retour. Quelle chose glorieuse! Maintenant, Abraham, j'aime ceci, Abraham est héritier de tout par la promesse. Aussi, il pouvait revendiquer tout ce qui était dans le pays et le pays lui-même. La promesse avait été donnée à Abraham. Maintenant, nous comprenons qu'Abraham était l'homme le plus pauvre du pays parce qu'il vivait dans le désert, il vivait en paix avec Dieu. Et Lot était riche, il vivait dans la ville et il était devenu gouverneur de la ville. Il était assis à la porte, il était juge, il jugeait la ville, il avait toutes les richesses et toutes choses. Mais Abraham était dans le désert. Il était peut-être l'homme le plus pauvre du pays, et pourtant, il pouvait revendiquer la possession de tout. Amen. C'est ce que j'aime. Oh, ce soir, nous pouvons ne pas être riches des biens de ce monde, mais nous possédons toutes choses. L'Église elle-même possède toutes choses. Pauvre et pourtant riche, possédant toutes choses. J'aime cela. Nous sommes ce vieux cantique que nous chantions il y a des années. Mon père est riche de maisons et de terres. Il tient la richesse du monde dans sa main. Rubis et diamants, argent et or, ses coffres sont pleins. Il a des richesses incalculables. Et nous en sommes possesseurs parce que nous sommes un enfant du roi. Amen. L'enfant hérite toujours, nous le savons, c'est juste. Et Abraham pouvait s'en emparer, et pourtant, il était pauvre. Son bétail mourait de faim. Lot avait pris la meilleure terre. L'eau manquait, c'était la saison chaude. Les bergers avaient eu des ennuis, tout semblait aller mal pour Abraham. Et pourtant, tout lui appartenait. Et aujourd'hui, le vrai croyant est rejeté du peuple. On l'appelle un fanatique, un fou de la religion. On lui donne un nom insultant, c'est un fanatique religieux. Et pourtant, il est héritier des cieux et de la terre. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Oh, on parle de vous, on vous laisse dans une cabane n'importe où, et vous avez à peine de quoi payer votre loyer, et pourtant, vous possédez tout. Amen. Il vous faut pourtant travailler, peiner, suer, pour quelques dollars, pour gagner honnêtement votre vie, pour chausser vos enfants, les nourrir quand ils sont affamés, et pourtant, vous possédez tout ce qui est ici. Vous en êtes l'héritier. Les doux hériteront la terre. Ils la possèdent. Oh, j'aime cela. Posséder la terre. Qui la possède? Le croyant. Le croyant a un titre, un contrat, n'est-ce pas? Disant que par Jésus-Christ, il sera le possesseur de cet univers tout entier. C'est juste. Les doux hériteront la terre. Abraham avait... Il pouvait posséder cette terre et ce qui s'y trouvait. Dieu la lui avait donnée. Et Lot était une partie de cette terre. Aussi, Abraham avait un droit sur lui. Il pouvait le réclamer sans saisir. Il dit, maintenant, ô Dieu, tu m'as fait la promesse que toute cette terre et tout ce qu'elle contient était à moi. Et tu m'en as fait la promesse. Maintenant, mon parent a été enlevé et tout ce qu'il possédait a disparu. En d'autres mots, si je l'appliquais à aujourd'hui, je dirais, l'Église pourrait dire, Seigneur Dieu, voici mon frère, il est couché là, frappé par le cancer, frappé par la tuberculose, il a ceci et cela. Je m'empare de la promesse, c'est ma possession, tu me l'as dit. Amen, nous y sommes. Alors vous pouvez poursuivre cet ennemi, ce démon, et le massacrer exactement comme Abraham massacra les rois et rapporta ce qu'il possédait. Amen, j'aime cela, c'est pour le croyant. Abraham avait droit à la promesse, et la promesse était à lui. Pourtant, il dit, combattre, il dut combattre pour en prendre possession. Amen. Vous y êtes. Le croyant d'aujourd'hui, bien qu'il soit héritier de toutes choses, bien qu'il soit héritier de toutes les bénédictions spirituelles, de toutes les bénédictions physiques, de toutes les bénédictions que promet la Bible, pourtant, il doit combattre pour chaque pied de terre de cette façon. Cela a toujours été ainsi. Vous devez combattre pour obtenir ce que vous savez être à vous. Vous devez combattre pour le posséder. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. Vous dites, frère Branham, j'ai besoin d'être guéri. La promesse est à vous. Mais si vous l'obtenez, vous ne l'obtiendrez pas facilement. Laissez-moi vous le dire. Vous devrez la prendre à Satan. Satan s'empare de votre santé. Vous aurez le droit d'aller vers Satan et de dire, rends-la-moi, donne-la-moi, je viens au nom du Seigneur, le propriétaire des cieux et de la terre, et je suis son héritier. Rends-la-moi, tu as pris mon enfant, tu lui as fait rencontrer le garçon qui ne lui convient pas, tu as pris mon garçon, tu lui as fait rencontrer la fille qui ne lui convient pas, je les réclame, c'est juste. Je réclame mes enfants, je réclame mon frère, je réclame ma sœur. Oui, Satan, tu les as enlevés de la main de Dieu, tu les as obligés à sortir, mais je viens les chercher, je les réclame. Bien, comment le sais-tu? Je suis héritier de toutes choses. Amen. Elles me sont données. Je suis héritier, je réclame tout ce que Dieu m'a promis. Amen. Vous y êtes. Bon, comment l'obtenez-vous? Avez-vous fait quelque chose? Non, monsieur, c'est le cadeau immérité que Dieu nous a donné. Et il est à nous, il nous appartient. Satan ne peut pas le retenir. Si vous allez vers lui avec l'autorité des Écritures, avec foi pour dire, c'est à moi, lâche-le. Amen. Gloire. J'aime cela. Satan, lâche-le. Tu me l'as pris. Tu le rends parce que je te signifie un arrêt. J'ai l'arrêt écrit ici, dans la parole. Le ciel et la terre passeront, mais cet arrêt ne passera pas. Aussi je viens avec cet arrêt pour te signifier que Jésus a dit tout ce que je demande au Père en son nom, il me le donnera. Si je dis à cette montagne, retire-toi, et si je ne doute pas dans mon cœur, mais si je crois que ce que j'ai dit arrivera, je peux avoir ce que j'ai dit. Dépose-le. Cela lui fera prendre le départ. Ne lui faites pas seulement prendre le départ, faites-le courir. Dépose-le parce que je suis venu avec l'autorité de la parole. Je suis un croyant. L'avez-vous? Oui, monsieur, oui, monsieur. Qu'a-t-il fallu qu'Abraham fasse d'abord pour faire ceci? Il a dû mettre sa foi sur la base du solide rocher de la parole promise de Dieu. Voyez, la seule chose qu'il avait était un petit groupe de serviteurs, probablement une douzaine. Il y avait probablement environ 2000 hommes armés de l'autre côté. Et les hommes d'Abraham n'étaient pas des soldats, c'étaient des serviteurs, des bouviers, des bergers, des gardiens de troupeaux. Ils avaient probablement de vieux couteaux rouillés qu'ils avaient ramassés quelque part et laissés dehors et plusieurs averses étaient tombées dessus et ils étaient rouillés. Mais Abraham ne regardait pas aux couteaux rouillés ni au fait qu'il n'avait pas de bouclier. Sa foi reposait sur la parole de Dieu. Vous y êtes. C'est ce qui agit. C'est cela. Comment allez-vous combattre quand vous arriverez là-bas? Cela n'est pas mon affaire, c'est mon affaire de mettre ma foi dans ce que Dieu a dit. C'est à moi, je réclame ce qui m'appartient. Amen. Maintenant, lorsque les gens qui sont malades peuvent voir cela, la maladie est complètement terminée, voyez-vous, c'est certain. Quand un pécheur voit qu'on n'est pas obligé de pécher, beaucoup de gens pêchent parce qu'ils sont obligés de pécher. Quel piteux état quand vous dites que vous êtes obligé de pécher. Mais lorsque vous vous rendez compte que vous n'êtes plus obligé de pécher,
Il y a des gens qui sont là, qui jurent et qui vous rient au visage et ils vous traitent d'imbécile et tout le reste. Ils pêchent volontairement, vous voyez. Alors il n'y a plus d'espoir pour eux. Mais cet homme qui fait constamment quelque chose, il ne désire pas le faire. Il vole, mais il ne veut pas le faire. Et il ment, mais il ne veut pas le faire. Il fait des choses qu'il ne veut pas faire. Il ne veut pas être un pécheur. Il y a de l'espoir pour lui, si vous pouvez lui faire voir quelle est la vérité, voyez-vous. Emparez-vous des promesses de Dieu. Fondez votre foi sur elles et marchez sur l'ennemi. Il ne peut absolument pas le retenir plus longtemps, c'est tout, parce que c'est à vous. Maintenant, regardons cet homme. Ici, Abraham dit, « Je suis héritier, ceci m'appartient, tout dans ce pays m'appartient, parce que Dieu, je ne l'ai pas encore. » Mais il l'avait, c'était à lui de toute façon. Maintenant, nous sommes héritiers de toutes choses. Est-ce juste? Nous sommes héritiers de toutes choses. C'est écrit ici, tout au travers de la Bible. Nous sommes héritiers de toutes choses, absolument tout. Nous ne le possédons pas encore, mais c'est à nous. Amen. Oh, gloire! Je ne possède pas un pied de terrain, mais pourtant, c'est à moi, certainement. Tout est à nous. Tout appartient au peuple, l'Église, les croyants, l'épouse de Christ en possède jusqu'à la moindre parcelle. La Russie combat pour ceci, les États-Unis combattent pour cela, et ces combats pour ceci et ceci ici, et alors ils nous traitent de fous. Tenez-vous tranquille, vous le possédez de toute façon. Amen. Nous allons tous en devenir héritiers de toute manière. Ils peuvent faire des histoires, se disputer les uns avec les autres, cela nous appartient. Nous sommes ceux qui le possèdent. Ils n'y penseront même jamais, mais c'est à nous, de toute façon. À nous, en tout cas. Qui aurait pensé que ce pauvre vieux là-haut, avec ce malheureux bétail décharné au sommet de la colline, il possédait tout. Toute la Palestine lui appartenait. Oui, monsieur. Aussi, quand il fut au point de faire valoir ses prétentions, Dieu prouva qu'il était avec lui. Il prit ce petit homme qui sortit là-bas, et il les massacra tous, et il recouvra ce qui lui appartenait. Amen! J'aime cela. Pourquoi? Il fonda sa foi sur le roc des promesses de Dieu. C'est ce qu'il faut. Il n'a pas construit un autre fondement. Il ne s'est pas joint à une dénomination ou pris quelque chose comme ceci. Il fonda sa foi sur cette promesse. Amen! C'est juste. Sur cette promesse-là, puis il marcha de l'avant. Des armes plus ou moins rouillées ne faisait aucune différence pour lui, sa foi était fondée sur la promesse. Et lorsque vous vous avancez pour que l'on prie pour vous, si vous désirez le salut, si vous désirez la guérison divine, quoi que ce soit, si vous êtes un croyant, vous êtes héritier de chaque promesse. Aussi, fondez votre foi sur la promesse et allez de l'avant. Et dites à Satan, rends-le, c'est à moi, ne le laissez pas vous avoir. Tenez-vous ferme sur la ligne. Et il le rendra. Dieu a dit qu'il le ferait, aussi il doit le faire. Cela est votre autorité, c'est juste. Héritier de toutes choses. Il se tint sur ce fondement, la parole promise, et il eut un héritier. Il était l'héritier, donc il le savait. C'est cela. Ô monsieur, après que la promesse lui était prouvée, il eut alors communion avec celui qui avait promis. J'aime cela. Après que Dieu ait fait la promesse. Et alors, voyez, Abraham n'avait jamais été mis à l'épreuve de cette manière auparavant. Aussi, il savait que tout lui appartenait, et c'était la promesse. Pourtant, il n'avait jamais eu à combattre une armée, il n'y connaissait rien. Il n'était pas un homme entraîné au combat. Abraham n'était pas un combattant, c'était un fermier. Et Abraham ne pouvait rien faire, parce qu'il n'était pas un soldat. Ces hommes n'étaient pas des soldats, c'était des fermiers. Aussi, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de prendre la promesse de Dieu, fonder sa foi sur la promesse et partir, suivre. Alors Abraham vit cela. Il obtint cette promesse. Il vit que Dieu la faisait valoir, que Dieu tient ses promesses. Amen, nous y sommes. Si vous n'avez encore jamais reçu le Saint-Esprit, que vous ne savez rien de lui et que quelque chose dans votre cœur vous dise que vous le désirez, vous restez juste là. Cela, c'est la vie éternelle. Et c'est ce dont vous êtes héritier. Restez juste là. Et regardez Satan en face et dites, c'est toi le voleur, c'est bien toi. Je viens pour prendre possession de ce que Jésus-Christ m'a donné par sa mort. Maintenant, rends-le. Retire-toi de mon chemin. Alors la première chose que vous savez,
c'est que le Saint-Esprit se répandra sur vous. Alors il arrive quelque chose. Il arrivera quelque chose. Qu'est-ce? Dieu prouvé gardant sa parole. C'est exactement cela. Alors voyez, après avoir vu la parole vous prouver que vous êtes sauvé, que vous avez le Saint-Esprit, alors quoi? Abraham avait gagné la bataille. Voici qu'il revenait, il arrivait, sa foi s'appuyait sur la parole, la promesse qu'il pouvait ramener ce qu'il avait perdu. Voici qu'il revenait avec, marchant de la marche du vainqueur. Vous pouvez faire la même chose. Si vous n'avez pas la vie éternelle, demandez à Dieu. Confessez vos péchés, croyez au Fils de Dieu, acceptez le baptême du Saint-Esprit et dites, « Oh Dieu, c'est pour cela que je suis venu, je suis ici pour le recevoir. » Alors vous repartez marchant en vainqueur, vous l'avez obtenu, amen, vous êtes rayonnant. Oh, les oiseaux chantent différemment, tout est changé, vous aimez tout le monde alors. Cette vieille haine, cette malice, cette lutte sont terminées, vous aimez tout le monde. Oh, vous passez un moment merveilleux, chantant, criant, louant Dieu. Ne faites pas attention à ce que tout le monde dit de vous. C'est juste, certainement, la marche du vainqueur. Alors, qui vient à votre rencontre? Qui va à la rencontre? Melchisédek vient à sa rencontre, après que sa parole ait été confirmée. Melchisédek est celui qui lui donne la parole. Alors il met sa parole, sa foi sur la parole, il obtient la victoire, il revient, et alors il a la communion. Amen. Maintenant vous aussi. Oh, sa parole sera quelque chose de nouveau pour vous, dès que vous aurez le baptême du Saint-Esprit. Oh, vous dites, je ne peux pas voir ces choses, je ne crois pas au cri, je ne crois pas au parler en langue, je ne crois pas à la guérison divine. Cela montre simplement que vous n'avez jamais eu la victoire, c'est juste. Mais dès que vous obtenez la victoire, alors vous l'avez. Quand vous l'avez, alors vous pouvez crier, « Oui, monsieur !» Une fois, voyez-vous, je réfléchissais au fait de danser dans l'esprit, voir quelqu'un se tenir debout et danser dans l'esprit. Maintenant, j'en ai vu le simulacre, mais j'ai vu aussi la chose véritable. Aussi, j'en suis arrivé à trouver pourquoi les gens peuvent danser dans l'esprit. Eh bien, je n'en ai encore jamais vu un sortir du chemin. Je n'ai encore jamais vu un agir d'une façon immorale. J'ai toujours vu que c'était avec décence, avec ordre, avec douceur, et même les pécheurs courent à l'autel et se convertissent quand cela arrive. Eh bien, je me demandais pourquoi, et j'en suis venu à voir que c'est la victoire. David dansa devant le Seigneur quand l'arche fut rapportée à son lieu de repos. Amen. Quand David vit la parole, comme elle était alors, avec les tables de pierre rapportées à sa juste place, il se réjouit, il dansa dans l'esprit, en tournant tout autour. Pourquoi? Il vit la parole revenue à sa place. Amen. Ce dont la parole a besoin, ce n'est pas ce qui sort d'un séminaire, une confusion théologique, mais derrière la chair, un prédicateur à l'ancienne mode, envoyé de Dieu avec la parole, voyant que Dieu la soutient et l'approuve. Lorsque David dit « Gloire à Dieu, c'est bien cela », et qu'il danse et tourne, cette petite femme guindée là-bas, la fille du roi, elle dit « Eh bien, il me gêne ». Et David dit, tu n'aimes pas cela? Regarde ceci, il dansait, il tournait encore, oui. Oh, quel moment il passait. Vous savez que Dieu regarda du haut du ciel et dit, David, tu es un homme selon mon cœur, voyez-vous? Pourquoi? Il avait perdu tout orgueil, il avait perdu ce qui était sien. Pourtant, il était marié à la fille d'un roi, mais ce n'était même pas considéré alors. Il savait qu'il était en relation avec le possesseur des cieux et de la terre. Et voici que la parole de Dieu revenait tout droit parmi eux de nouveau. Et David était si heureux qu'il dansait. Il dansait simplement autant qu'il le pouvait. Myriam attrapa le tambourin et descendit vers la rive, dansant sur l'autre bord. Après être passée à travers la mer rouge, l'avoir vu ses ennemis noyés, elle pouvait alors danser dans l'esprit. Et quand elle vit que ses ennemis qui l'avaient tourmenté étaient morts, elle dansa dans l'esprit. C'est juste. Maintenant, vous voyez, c'est après avoir gagné la bataille, alors la gloire de Dieu descend. Maintenant, nous voyons qu'il le rencontra, et après que la promesse ait été accomplie, il eut communion. Melchisédek vint bénir Abraham, et il dit, « Béni soit Abraham, et béni soit le Dieu d'Abraham, le possesseur des cieux et de la terre. » Oh, comme j'aime cette promesse aux croyants. Vous dites, « Mais en quoi cela nous concerne-t-il ? » Cela concerne chaque croyant. La promesse pour le croyant, c'est la vie éternelle. La promesse pour le croyant, c'est la vie, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la patience, les fruits de l'esprit, la guérison divine, une douzaine de choses que j'ai écrites ici, et qui sont en votre possession. Ces choses vous appartiennent, mais vous ne pouvez pas les avoir avant d'avoir combattu pour les obtenir. C'est à vous. Toutes les choses que l'on peut voir, toutes les choses matérielles que l'on peut voir m'appartiennent. Dieu me les donne parce qu'il me les a données à travers Christ. Et les choses invisibles m'appartiennent. Amen. J'aime cela. Ce que vous pouvez voir, comme la guérison divine, etc. Comme cela, c'est bon, nous apprécions cela. Mais les invisibles, maintenant, la science peut fouiller autour de ceci et dire, eh bien, voyons, prenons cet homme. Vous dites qu'il a été guéri? Prenons-le et examinons-le. Voyons ce qui est arrivé. Et vous dites que vous aviez une tumeur ici avant? Oui, juste là. Bien. Faisons une recherche scientifique pour voir si elle ne s'est pas seulement enfoncée sans partir pour autant. Vous dites que vous étiez aveugle et que maintenant vous voyez. Comment puis-je le savoir? Il faut observer scientifiquement et voir. Maintenant, ils peuvent sonder tout cela, mais cependant, je suis l'héritier de cela aussi, tout ce qui est physique. Et alors également, héritier des choses invisibles, là où la science ne peut pas fouiller. Amen. Amen. Les choses invisibles. Amen. J'en suis héritier. Oui, monsieur. Les choses que l'on peut voir, j'en suis l'héritier. Cette terre actuelle, j'en suis héritier. Vous en êtes héritier. Chaque croyant est un héritier. Il en est l'héritier. Bien. Alors les invisibles, possesseurs de quoi? Du ciel et de la terre. Amen. Toutes choses, le croyez-vous? Vous dites, frère Branham, qu'en est-il de ce que vous ne pouvez pas voir? Comment savez-vous? Tout est à moi. Amen. Le ciel m'appartient, c'est à moi. Dieu l'a dit et c'est juste. Bien. Vous n'avez jamais vu, comment savez-vous que c'est là? Je sais que c'est là de toute manière, Dieu l'a dit. Comment savez-vous que vous en êtes l'héritier alors que vous ne l'avez jamais vu? Je crois à sa parole. Amen. Voyez-vous, je suis héritier. Vous êtes héritier avec moi. Nous sommes tous héritiers ensemble par Jésus-Christ. Avez-vous remarqué? Ici dans les Corinthiens, ici en 2 Corinthiens, Paul dit même la mort. La mort est en notre pouvoir. Pensez à cela. La mort en notre pouvoir. Oui, monsieur, cela nous concerne. Amen. Oui, gloire. J'ai oublié l'explosion de ce fusil, voyez maintenant. Pourquoi ne m'a-t-il pas tué? Parce qu'il ne pouvait pas. Voilà pourquoi Dieu n'était pas prêt. Il peut venir autant qu'il veut, mais il ne peut pas vous prendre. Amen. Gloire. J'en ai payé la dette il y a longtemps quand j'ai cru à Jésus-Christ, qui est vivant à jamais. Maintenant, la mort écoute ce que nous disons. Amen. Vous dites, la mort en notre pouvoir, c'est ce que dit Paul ici dans les Corinthiens. Même la mort est en notre pouvoir. Eh bien alors, qu'on projetait de lui couper la tête, il dit, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Montre-moi où tu peux me faire peur. Et la mort dit, je t'écraserai et je te mettrai dans la tombe et tu pourriras et tu seras rongé par les vers. Il dit, ô grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, monsieur, la mort, l'enfer et la tombe sont tous en mon pouvoir parce qu'il a tout conquis pour nous. En notre pouvoir, exactement comme Josué et Caleb, ils rapportèrent la preuve d'une terre inconnue qui avait été donnée au peuple par une promesse. Josué et Caleb rapportèrent la preuve que cette terre existait. Maintenant, ici en bas, ils en avaient la promesse. Dieu leur avait donné la promesse et ils montèrent tout droit vers ce pays, mais ils ne l'avaient jamais vu. Et Josué et Caleb entrèrent dans la terre promise et rapportèrent la preuve qu'elle était là et que c'était un bon pays où coule le lait et le miel. Amen. Qu'était-ce? Ils allaient entrer en possession de ce pays. Ils avaient la promesse. Et la Bible dit, le même Dieu qui donna à Israël la promesse de cette terre promise, c'était une chose invisible pour eux, cette même Bible, ce même Dieu nous donna une promesse de vie éternelle. Et le Saint-Esprit en est la preuve. Christ est vivant. Il n'est pas mort. Il vit au milieu de nous. Il vit en nous, à travers nous. Et nous en sommes entourés. Amen. C'était lui assis sur le banc là-bas l'autre jour, quand Satan vit une chance de me tuer, mais il ne put pas le faire. Et il ne le fera jamais avant que Christ ne dise que c'est prêt. Amen. Qu'importe combien de fois il vient, il repartira les mains vides jusqu'à ce que Christ donne un ordre. Amen. C'est juste. Dieu l'a promis. C'est la parole de Dieu qui l'a promis. Et nous le croyons parce que nous sommes héritiers. Je suis héritier de la guérison divine. Je suis héritier de la joie. J'ai le droit d'être heureux. Alors, qu'est-ce qui vous rend si heureux? J'ai le droit de l'être. Comment le savez-vous? Parce que je suis héritier de la vie éternelle. Amen. Maintenant, je me sens plein de ferveur, voyez. Je suis héritier du bonheur. Je suis héritier de la joie. Ils étaient en chemin et ils étaient presque arrivés au Jourdain. Et Josué traversa et rapporta la preuve que c'était une bonne terre. Et ce que fit Josué pour les enfants d'Israël, Josué signifie sauveur. Le mot Josué est exactement la même chose que fit Jésus pour l'Église quand il fut tué. Il conquit la mort, il conquit l'enfer, il conquit la tombe et ressuscita avec la preuve, le baptême du Saint-Esprit, qu'il y a un pays au-delà de la rivière qu'on appelle douceur infinie. Amen. Il revint et il nous rapporta la preuve. Que fait-elle, frère Branham? Elle nous fait arrêter de mentir, de voler, de boire, de jurer, d'être immoral, toutes choses. Elle fait de nous une nouvelle créature. Moi qui étais autrefois mort dans le péché et les transgressions, pourtant je vis. Ce n'est pas moi, mais Christ vit en moi. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Héritier de la promesse. Alléluia. Oui, monsieur, le pays nous appartient. Comment le savez-vous? Josué ressuscita des morts. Il rapporta la preuve, le Saint-Esprit. Je l'ai. Amen. Oh, gloire. Je suis héritier. Oh, un enfant du roi. Un enfant du roi, héritier de toutes choses. Je suis héritier de la paix. Je suis héritier de la vie éternelle. Je suis héritier du Saint-Esprit. Amen. Je suis héritier de toutes les preuves qu'il a. Amen. Je suis héritier de l'autorité de Dieu. Amen. Qui vous a fait ainsi? Pas moi, c'est lui qui l'a fait. Chacun de vous est héritier des mêmes choses. Héritier d'un trône. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Héritier de toutes choses. Pas simplement une chose, toutes choses. Toutes choses sont sous vos pieds. Même la mort est sous vos pieds. La tombe est sous vos pieds. L'enfer est sous vos pieds. Le péché est sous vos pieds. Tout est sous vos pieds. Vous êtes héritier et vous êtes mort et votre vie est cachée en Dieu par Jésus-Christ. Et vous êtes ressuscité à la vie éternelle, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh! Appelez-nous comme vous voulez. Appelez-nous de n'importe quel nom. Dites que nous sommes fous, si vous voulez. Mais nous sommes des héritiers. Héritiers de quoi? De toutes choses. Êtes-vous héritier du Branham Tabernacle? Non, je suis héritier de toutes choses. Des choses visibles, présentes, futures, de toutes choses. J'en suis héritier. Et tout le péché et le mal ont été mis sous mes pieds par la grâce de Jésus-Christ. Il s'est levé un matin de Pâques, triomphant de la mort, de l'enfer et de la tombe. Il m'a fait héritier et il dit, attendez ici et je vous donnerai la promesse. Et son serviteur roi, revêtu de l'autorité, dit, la promesse est pour vous, vos enfants, pour ceux qui sont au loin et pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Je suis héritier. Amen. Amen. Jésus nous l'a prouvé à sa résurrection. Oh! Quand nous entrons sur ce champ de bataille entre la mort et la vie, je suis un pécheur, frère Branham. Vous n'avez pas besoin de l'être. Vous êtes un pécheur parce que vous désirez l'être. Vous n'avez pas à l'être. La dette est déjà payée. Frère Branham, j'aimerais avoir la joie. Vous pouvez l'avoir. Vous laissez simplement Satan vous dérober les privilèges pour lesquels Christ est mort. J'en suis l'héritier. Tout est à moi. Toutes les choses pour lesquelles il est mort m'appartiennent, vous appartiennent. Nous sommes ses enfants, nous sommes héritiers de toutes les choses pour lesquelles il mourut. Maintenant,
quand vous pénétrez sur ce champ de bataille, ah, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Vous savez, vous allez vous mettre à faire des choses bizarres, et il y aura quelque chose de différent. Peu importe ce qui est différent, j'en suis héritier, c'est la vie, et je la désire, c'est juste. Je devrais être le mobile de chaque pécheur. Je viens la recevoir, m'appuyant sur le fait que le Saint-Esprit se tient ici, maintenant, et me dit de venir la recevoir. C'est à moi, je ne me lèverai pas avant de l'avoir reçue. Je ne veux pas être un fanatique, je vais rester ici, peu importe ce qui arrive, je prierai jusqu'à ce que tu me donnes le Saint-Esprit, Seigneur. Et je sais que tu vas le faire maintenant. S'il y a quelque chose de mauvais dans ma vie, dis-le-moi, et j'agirai. Qu'est-ce, Seigneur? J'irai le remettre en ordre. Si Dieu ne révèle rien, dis, alors Satan, je viens le chercher. Tu ne peux pas rester là plus longtemps. Retire-toi de mon chemin. Vous y êtes. Héritier de toutes choses. Héritier de la vie éternelle. Héritier de la guérison divine. Oh, héritier du salut, acquis par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louant le Seigneur à chaque instant. Une soumission parfaite. Tout est dans le repos, moi en mon Sauveur. Je suis heureux et béni, veillant, attendant et regardant vers le ciel, rempli de son et son amour. Alléluia, vous y êtes. Voilà mon histoire et voilà mon chant. Je suis héritier du salut. Qu'est-ce que le salut? Quelque chose qui vous est donné, c'est un don. Je suis héritier du salut. Quelle sorte de salut? La vie éternelle. Salut pour mon âme, le salut pour mon corps, le salut pour ma lassitude, le salut pour toutes choses. Dieu m'a fait héritier de toutes choses par Christ. Et il mourut, ressuscita, revint apporter la preuve et la répandit sur nous. Oh, gloire! Oh, maintenant, vous vous approchez, que faites-vous? Lorsque vous venez exactement comme Abraham le fit, vous vous approchez avec cette promesse. Oh Dieu, tu m'as dit que c'était à moi, j'ai foi en tes promesses, j'apporte ta parole, tu as promis ceci. Vous dites, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, demandez et on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. Me voici Seigneur, je suis ici, je frappe, je cherche, je demande. Je dois le recevoir, vous y êtes. Quelque chose arrive alors. Oh, quand vous posez cette parole comme principe. Regardez ce que fit Satan lorsque Jésus lui présenta la parole. Il est aussi écrit, il s'éloigna de ses fils électriques d'un bond, comme j'ai dit l'autre soir. Oui, monsieur. Alors quoi? Après avoir vaincu, comment avez-vous la victoire? Pouvez-vous jamais le faire par vous-même? Non. Quelqu'un vint avant nous. Et il remporta la victoire pour vous. C'est Christ. J'en suis simplement l'héritier. Je n'ai rien à faire. Je suis héritier de la promesse. La seule chose que j'ai à faire, c'est d'appuyer ma foi sur sa promesse. Le voyez-vous? Frère Branham, êtes-vous digne de cela? Non. Pensez-vous que je sois digne? Non. Pensez-vous que l'évêque soit digne? Non. Y a-t-il jamais eu un homme digne? Non. Alors pourquoi? Vous êtes héritier. Si vous étiez le plus grand ivrogne de la terre, et que votre père vous laisse $1,000,000, que vous soyez digne ou non, vous êtes son héritier. Vous êtes l'héritier de l'héritage de votre père. Quoi qu'il vous laisse, c'est à vous. Que vous soyez digne ou non, il vous l'a laissé. Amen. J'étais pécheur, mais héritier. Je n'étais pas bon, oh, pas encore, mais je suis pourtant héritier. Je devrais mourir, aller en enfer, mais je suis héritier. Je suis héritier de quoi? De la vie éternelle. Comment savez-vous que vous allez l'obtenir? Je le sens, le Saint-Esprit me l'a apporté. Jésus ressuscita pour qu'il puisse venir. Maintenant il est venu, et il témoigne, et il prouve exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors je suis héritier. Oui, monsieur, maintenant je suis en marche. Amen. Les choses sont mises à mort. Qu'est-ce que toutes les choses que j'ai faites? Exactement comme Myriam le fit. Regardez là-bas derrière. Elles y sont mortes, englouties dans la mer de l'oubli, dans le livre du grand livre de Dieu dans les cieux. C'est fait.
Mon nom a été mis sur ce livre, il a été scellé, jeté dans la mer de l'oubli, et un nouveau livre avec un nouveau nom inscrit dans la gloire, et c'est le mien. Oui, maintenant donc nous sommes héritiers de toutes choses. Alors, c'est comme lorsqu'Abraham, que lui dit Dieu, ce pays t'appartient, ce qui est à toi, regarde à l'est, au nord, à l'ouest, au sud, tout est à toi, tout ce qui est ici. Je veux que tu viennes dans un pays étranger et je te ferai l'héritier de ce pays. Je te le donnerai à toi et à ta semence après toi pour toujours. Maintenant Abraham, la seule chose qu'il eut à faire fut de fonder sa foi sur cette promesse, prendre son épée et partir. Quand le moment crucial arriva, il descendit là-bas et Dieu combattit pour lui. Et quand il combattit, il massacra les rois. Et voici qu'il revenait. Amen. Tout était terminé maintenant. Et frères, il peut crier. Écoutez tous les jeunes gens criant et louant le Seigneur. Voici Abraham. Et qui vient à sa rencontre? Melchisédek, roi de Salem. Et voyez ce qu'il fit. Après que la bataille fut terminée, ils purent s'asseoir et prendre le pain et le vin. Le roi apporta le pain et le vin. Pourquoi le fit-il? Après que la bataille fut terminée, après que la victoire fut remportée, alors ils purent s'asseoir et prendre la communion ensemble, parler ensemble et manger la communion ensemble. Oh, c'est ce que Dieu veut que ses enfants fassent ce soir. Et en ce qui vous concerne, frère Branham, en ce qui concerne cette église dont vous parlez, nous sommes la semence d'Abraham. Ils sont la semence royale d'Abraham. Nous sommes la semence d'Abraham par la promesse. En Jésus-Christ, nous devenons la semence d'Abraham et nous sommes héritiers avec lui selon la promesse. Donc, si Abraham était héritier, je suis héritier, avec Abraham et vous aussi. Comment est-ce arrivé? Par la semence royale d'Abraham qui était Jésus-Christ. Celui qui avait été promis par la foi. Abraham reçut un fils comme revenu des morts. Et nous reçûmes un fils qui n'était même pas un fils. Et aucun moyen d'y parvenir. Et Dieu le fit, et il nous l'envoya. Et il vint, et il paya la dette de nos péchés, et par sa mort, je deviens héritier. Oh, vous y êtes. Et toute la méchanceté du diable est derrière nous. Louange à Dieu. Triomphez. Combien ont triomphé ce soir? Levez vos mains. Par la grâce de Dieu, j'ai triomphé. Louange à Dieu. Savez-vous ce que je pense que nous devrions faire tout de suite? Commencez juste maintenant et vous gardez la moitié de la nuit. Ayons simplement un bon service de consécration. Consacrons à nouveau nos vies à Dieu. Combien voudrait faire cela? Oh, j'ai plus d'une main levée maintenant. Je lève mes deux mains et mon cœur aussi. Je veux que ma vie fasse honneur à Christ. Je veux à nouveau me consacrer à Christ. Je veux que sa volonté soit faite et que la mienne reste en arrière et que sa volonté soit faite. Je veux avoir la marche du vainqueur. Pas parce que c'est moi, mais parce que je sais que l'évangile qu'il prêcha souffre aujourd'hui à cause des dogmes dénominationnels faits par les hommes et de tout le reste. La grande victoire que nous devrions avoir a été retenue par l'ennemi. Ô Dieu, laisse-moi tirer cette épée, qu'elle étincelle et brille et que je marche en avant, que ma volonté reste en arrière et que sa parole aille de l'avant. Comme cela, une épée aiguë à deux tranchants, traçons le chemin. Mettons-nous debout et consacrons-nous à nouveau. Chacun de la manière qui vous est propre, consacrez-vous au Seigneur. Levons tous les mains maintenant vers Dieu. Notre Père Céleste, ce soir, nous nous consacrons à toi du mieux que nous pouvons. Nous savons que nous sommes héritiers de toutes choses. Tu l'as promis, Seigneur Jésus, et nous le croyons. Maintenant, nous ne serons jamais capables de le faire, à moins que toi, Seigneur, à moins que nous-mêmes, nous ne fondions notre foi sur ta promesse. Maintenant, tu as dit dans la Bible, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et il ne viendra pas en jugement, mais passera et passé de la vie, de la mort à la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà la promesse. C'est ce que tu as dit, c'est ce que nous croyons. Et Seigneur Dieu, ô Esprit Saint, descends sur nous. Ô descends, mon Dieu, descends en nous, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, reçois-nous, Seigneur. Au nom de Christ, reçois-nous. Purifie-moi. façonne-moi, transforme-moi, ô Dieu, en l'image du Fils de Dieu. Prends-moi, Seigneur, je suis à toi, je te donne cette église, je te donne chaque âme ici avec la mienne, Seigneur. Maintenant, forme-nous et façonne-nous et fais que nous oublions nos mauvaises voies et que nous sachions que tant que nous fonderons notre foi, ce que nous avons de foi sur les promesses de ta parole, ce nous transportera de victoire en victoire. Tu l'as promis. Satan ne peut pas nous faire de mal, Seigneur. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne peut pas nous toucher. Quand tu le laissas s'attaquer à Job autrefois, tu as dit, ne prends pas sa vie. Il a tout fait, mais il ne l'a pas pris. Il ne pouvait pas le faire parce que ta promesse était toujours sur Job. Et Dieu, tu es toujours le même Dieu aujourd'hui. Tu protèges les tiens. Nous savons que c'est la vérité et nous nous consacrons à nouveau. Lave nos âmes pécheresses alors que nous confessons notre foi. Et Christ Jésus, reçois-nous. Et lorsque nous communierons à prendre ce souper du Seigneur, ô Dieu, communie avec nous dans nos cœurs. Dis-nous maintenant où nous sommes fautifs. Montre-nous où nous avons tort, Seigneur. Nous nous en repentirons humblement. Humblement, je dépose tous mes péchés sur l'autel, Seigneur. Humblement, je me place sur ta parole, Seigneur, et je te demande pardon. Me voici, Seigneur, fais de moi ce que tu trouves bon. C'est le cri de cette église, Seigneur. Fais de nous ce que tu trouves bon. Je ne peux parler que pour moi-même, Seigneur, mais je crois que dans leur cœur, ils croient la même chose. Fais de nous ce que tu trouves bon. Nous croyons, nous désirons être héritiers, et nous savons que nous sommes héritiers aussi longtemps que nous restons en Jésus-Christ. Nous sommes héritiers avec lui devant le trône. Maintenant, sois avec nous, guéris la maladie au milieu de nous, Seigneur. S'il y a un corps malade ici ce soir, touche-le, guéris-le et rends-le sain. Accorde-le, Seigneur. S'il y a une âme malade, qu'elle soit guérie à l'instant. Que cette âme infirme soit redressée. Que ses faibles genoux qui sont pliés et ses faibles mains s'élèvent dans la gloire et crient à Dieu. Que les chemins tortueux soient redressés. Qu'il y ait une grande route dans le désert pour notre Dieu. Seigneur, nous croyons que tu viens bientôt. Faisons éclater ta parole, Seigneur, et faisons une grande route dans le désert. Que les endroits tortueux soient redressés pour notre Seigneur. Détruisons toute racine dénominationnaire. Détruisons toute racine d'amertume, toute malice, envie, dispute. Que la vraie parole de Dieu coule comme des rivières de joie. Accorde-le, Père. Nous nous donnons à toi maintenant, juste avant de prendre le repas du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que Sir Spencer désire qu'on prie pour son corps, Père, cette sainte et pauvre vieille femme, celle-ci assise, infirme, cette fille d'Abraham, ne devrait-elle pas être délivrée le jour du sabbat? Et maintenant, peut-être, la plupart de ses amis, Seigneur, ses amis de l'ancien temps, ses ministres, à qui elle donnait l'hospitalité dans sa maison, sont partis. Ils ont pris la grande route vers le ciel. Elle reste seule, Seigneur, comme un témoignage. Personne, maintenant, seulement ses enfants, et peut-être un ami ici ou là, Seigneur, un parent de temps en temps. Mais elle est là, seule. C'est comme une grande forêt où tous les arbres auraient été emportés par le vent et où il ne resterait qu'un seul arbre. Ô Dieu, je te prie d'accorder dans ta grâce qu'elle ait de profondes racines. Et debout sur le mont du calvaire, Seigneur, qu'elle soit enracinée et appuyée sur la foi de Christ. Je pose mes mains sur cette chère sainte sœur et je condamne cette grosseur sous sa langue, qu'elle disparaisse et que notre sœur soit en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, amen. Dieu vous bénisse. Oh, merci beaucoup, Sir Spencer. Cela arrivera. Ne doutez surtout pas. Très bien. Ma foi regarde à toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute ma prière. Enlève tous mes péchés. Ne permets pas que je m'éloigne jamais de toi. Écoutez, chantez avec moi maintenant. lorsque je marche dans le sombre labyrinthe de la vie et que les difficultés m'environnent, sois mon guide. Ordonne à l'ombre d'être lumière, éloigne les larmes de la douleur. Oh, que je sois dès aujourd'hui entièrement à toi. Du fond de votre cœur maintenant, il n'y a que Dieu qui le connaît. Du fond de votre cœur, pouvez-vous sérieusement dire, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que je sois totalement à toi? Chantons encore ces deux dernières lignes. Ne permets pas que je m'éloigne jamais de toi. Maintenant, tous ensemble, grand berger du troupeau, tu nous as enseigné à prier ainsi.
Et l'assemblée prit ensemble notre bénédiction.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, à jamais. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je demande que l'on prie pour l'enfant de Sœur Shepherd. Je viens juste de me souvenir qu'il y a un moment, ils ont appelé pour que l'on prie pour l'enfant et j'ai adressé une prière pour ce cas. J'avais quelqu'un à voir juste ici et je n'ai pas pu aller chez eux, mais ils m'ont dit que la petite fille était malade et qu'elle avait de la fièvre et une espèce de raideur. Et ce n'est certainement qu'un virus qui court en ce moment. Vous le connaissez, quelquefois les muscles se tendent d'une telle façon qu'il faut les faire marcher avec les mains comme Madame Halley et beaucoup ici. C'est un virus qui court. Et elle adressa une prière et je dis que si le bébé n'allait pas mieux vers 9h ou à l'heure où nous terminerons le service, d'appeler ici et que nous irions, si le bébé va mieux, c'est bien. Aussi maintenant, humblement, avant de prendre la communion, prions pour cet enfant. Seigneur Jésus, ce petit bébé, je ne sais pas quel âge il a, ni rien, mais il est l'enfant d'une de nos bien-aimés disciples ici, Seigneur. Un de nos croyants. C'est leur enfant, l'enfant de sœur et de frère Shepherd. Un petit bijou que tu leur as donné, Seigneur. Nous te prions de veiller sur lui, de le bénir, de le protéger, de le guérir et de lui rendre la santé. Nous le réclamons juste maintenant. Après ce message, nous réclamons cela. Nous le réclamons pour la gloire de Dieu selon sa parole. Au nom de Jésus-Christ, que la maladie quitte cet enfant et que l'enfant retrouve la santé et aille bien pour la gloire de Dieu. Maintenant, cela a été prononcé et maintenant, ce sera fait. Amen. Le croyez-vous? Si nous avons confiance et ne doutons pas, il nous libérera certainement. Apportez votre fardeau au Seigneur et abandonnez-le là, oh, abandonnez-le. Apportez votre fardeau au Seigneur et abandonnez-le là. Si vous avez confiance et ne doutez pas, il vous libérera certainement. Apportez votre fardeau au Seigneur et abandonnez-le là. C'est tout ce que vous faites. Si votre corps est délabré par la douleur et que vous ne pouvez pas recouvrer votre santé, souvenez-vous simplement que Dieu dans les cieux répond aux prières. Maintenant, Jésus connaît la douleur que vous ressentez. Il peut sauver, il peut guérir. Apportez votre fardeau au Seigneur et abandonnez-le là. Maintenant, serrons-nous les mains les uns les autres en chantant le dernier couplet. Abandonnez-le là, la fraternité, vous savez, la communion. Abandonnez-le là, ô gloire au Seigneur. Apportez votre fardeau au Seigneur et laissez-le là. Si nous avons confiance et ne doutons jamais, il nous libérera certainement. Apportez votre fardeau au Seigneur et abandonnez-le là. Oh, n'est-il pas merveilleux? Maintenant, avec notre confession, notre croyance, notre confession de nos péchés, croyant que tous nos péchés sont dans la mer de l'oubli, celui qui confesse ses péchés, Dieu est juste pour lui pardonner. Voyez-vous, ils sont dans la mer du sang de Jésus-Christ pour être oubliés à jamais. Combien parmi vous, les femmes, savent ce qu'est l'eau de Javel? Tous. Maintenant, prenons simplement une grande bassine d'eau de Javel. C'est un décolorant, une grande bassine pleine d'eau de Javel. puis vous prenez un petit compte-goutte et vous avez une goutte d'encre noire dans ce compte-goutte. Elle représente vos péchés. Penchez-vous au-dessus de la bassine et pressez pour faire tomber cette goutte d'encre. Puis regardez dans la bassine et essayez de la retrouver. Qu'est-elle devenue? Qu'est devenue l'encre? Quand elle a touché le décolorant, il était si puissant qu'il a fait complètement disparaître la couleur. Elle n'existera plus jamais. Qu'est? C'est parti, parti à jamais. Qu'est? L'encre elle-même devient au Javel. C'est le sang de Christ par rapport à chaque péché confessé. Qu'est? C'est oublié, c'est fait, c'en est fini, c'est disparu, c'est séparé, c'est parti. Cela ne peut plus être rappelé contre vous.
Une sœur parle dans l'auditoire, notre belle éditeur.
Quelqu'un appelle mon nom quelque part.
Une sœur témoigne qu'elle vient juste d'être guérie, notre belle éditeur.
Eh bien, gloire à Dieu! Alléluia! Remerciez le Seigneur! Nous remercions le Seigneur! Oh Dieu, comme nous te louons pour ta bonté! Oui, cette humble petite âme là-bas fut touchée, le Seigneur l'a touchée. Très bien, il est le souverain sacrificateur qui peut être ému en ressentant nos infirmités. Rappelez-vous que chaque parole est une encre solide et sûre. Il n'y a pas de... Voyez-vous, fondez simplement votre foi dessus et ne bougez plus, restez simplement là. Maintenant, vous ne pouvez pas vous reposer sur votre foi, puis vous raccrocher et dire « j'essaierai de nouveau ». Mettez votre foi là et reposez-vous sur elle. Oui, monsieur, comme le fit Abel, mourez à vos propres pensées. Dites simplement « Oh Dieu, c'est ta parole, ce n'est pas ce que je pense, c'est ta parole, nous y sommes ». Et Abel mourut sur le roc, et il agira exactement comme il le fit pour la sœur là-bas. C'est tellement simple. Nous essayons de le faire, mais nous ne le faisons pas. Satan essaye de le rendre si compliqué. Vous savez, vous dites, « Oh, vous savez, c'était pour les jours anciens et tout cela. Ce ne sont que des incroyants. Mais pour vous qui croyez, il est si précieux. Pas simplement un Seigneur dont nous avons besoin, mais il est une pierre précieuse, devenant une pierre vivante, une pierre précieuse, la principale pierre d'ange. Oh, oh, celui qui touche cette pierre est guéri. C'est tout. Amen. Maintenant, ne sommes-nous pas reconnaissants au Seigneur? Simplement heureux, je suis si heureux que le Seigneur soit Dieu. Amen. Si heureux qu'il soit un tendre Père, plein de miséricorde, qu'il honore sa parole, gardant son alliance, ne l'oubliant jamais. Il garde son alliance, il doit le faire, il est Dieu, c'est lui qui l'a fait. Il est la fontaine de toute la vérité. Voyez-vous, il ne peut rien y avoir d'autre que la vérité sans mélange tout le temps. Chaque parole qu'il dit est infaillible. Et ceci est sa parole. Et ô Dieu, que ma foi en elle soit infaillible. Amen. Alors elle peut devenir infaillible comme la parole est infaillible. Alors la parole dans une telle foi produira tout ce que la parole a dit qu'elle ferait. Amen. Aussi purifie-moi, Seigneur. Éprouve-moi, purifie-moi, guéris-moi, protège-moi, bénis-moi et donne-moi tes compassions. C'est ma prière à Dieu. Maintenant, je vais lire un passage dans la parole, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit un pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain ou que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre dorment. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtillés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde.
Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Maintenant, puis-je dire ceci? Jésus nous donna ce commandement avant d'aller à la mort, sachant qu'il y allait. Les disciples se demandaient encore de quoi il parlait quand ils écrivirent ceci. Mais il dit, cette coupe est le Nouveau Testament de mon sang. Aussi souvent que vous le mangez et le buvez, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Oh, comme ces paroles sont précieuses. Les disciples sans doute se demandaient, que veut-il dire, annoncer sa mort? Comment pouvons-nous faire ceci? C'était un mystère complet pour eux, mais pas pour lui, il était Dieu. Il savait ce qu'il devait faire. Annoncer aussi, il dit, lorsque vous vous assemblez pour manger, maintenant, celui qui mange et boit indignement, il vient là et prétend être un chrétien, prenant le corps du Seigneur, puis il s'en va et vit avec le monde, et renie Christ et sa puissance, et des choses comme cela. Vous faites à Dieu un grand déshonneur. Vous faites un déshonneur à Christ, aussi ne le prenez pas. Mais si vous essayez avec tout ce qui est en vous de vivre droitement et de montrer que vous êtes un chrétien, que vous aimez Jésus-Christ, alors c'est votre devoir de le faire. Et maintenant, dans Saint Jean chapitre 6, Jésus dit, quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Maintenant, cette promesse n'est-elle pas quelque chose de glorieux? Je le ressusciterai. Avez-vous jamais pensé pourquoi vous êtes là? Pour quelle raison? Pour quelle raison allez-vous à l'école, enfant? Pourquoi travaillez-vous, père? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, mère, et envoyer vos enfants à l'école? Faire leur toilette, faire les lits, la cuisine, etc., etc., et faire tout cela? Rentrer, passer la nuit et le lendemain recommencer la même chose? Pourquoi le faites-vous? Pourquoi travaillez-vous? Et peinez-vous, père, et toutes ces choses? Rentrez le soir fatigué, et l'un des enfants est malade, et vous faites les 100 pas, pleurez, criez, combattez, et il guérit. Puis cela recommence, et vous le faites à nouveau. Et tous les dimanches, leur laver le visage et les emmener à l'église. Et qu'est-ce que tout cela veut dire? Pourquoi est-on ici? N'y a-t-il rien d'autre? Oh, ce serait épouvantable, sachant qu'il faut y aller de cette façon. Voyez, qu'est-ce que tout cela signifie? Oh, frère, c'est une période de test. C'est une période de possibilité. C'est la possibilité d'accepter ceci. Dites-moi ce qui pourrait le remplacer. Citez-moi quelque chose de meilleur que cela. Que vous fassiez n'importe quoi dans le monde. Que vous soyez le roi de la terre. Que vous dirigez l'univers. Que vous soyez un coup de chef ou un Kennedy. Que vous soyez tout ce que vous désirez être. Pourtant, malgré tout, vous mourrez. C'est juste. Vous ne savez pas quand cela arrivera. N'importe quand. Mais ici, quand la mort frappe, vous avez la vie éternelle et vous ne pouvez pas mourir. Avec une assurance donnée par le Dieu de toute la création qui possède les cieux et la terre, je le ressusciterai au dernier jour. Viens au secours de mon incrédulité, ô Dieu. Remplis mon âme, ô Dieu, purifie-moi, remplis-moi, agis en moi. Envoie-moi que je ne meure pas, que je vive pour raconter l'histoire, que j'aille dans tous les coins et recoins de la terre, prêcher la parole et semer la semence. Oui, monsieur, qu'il y ait au dernier jour une récolte de la vraie parole sans mélange avec les croyants en Christ. Vos péchés sont-ils sous le sang par la foi en Jésus-Christ ce soir? Maintenant, nous allons prendre la communion. Pas la communion. Nous communions lorsque nous mangeons l'un avec l'autre. Communier simplement avec Dieu. La communion n'est pas le pain, pas le vin. La communion, c'est converser avec Dieu. Et ceci est un symbole que nous prenons, montrant que nous croyons en sa mort, son corps brisé, son ensevelissement et sa résurrection. Nous croyons en la présence du Saint-Esprit. Et nous croyons qu'il nous a donné la vie éternelle et que nous ne pouvons pas mourir. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et un jour, après avoir été séparés les uns des autres ici, nous nous lèverons à nouveau ensemble dans la résurrection, liés ensemble avec Jésus-Christ en un corps. Amen. Sur ces bases, sur la confession de mes péchés et ma foi dans le Fils de Dieu, je me place et je place l'Église devant ce que Dieu nous a demandé d'exécuter pour annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus dit, voici mon corps brisé pour vous. Mangez. Faites ceci en mémoire de moi. Notre Père céleste, après avoir confessé nos péchés en entendant ta parole,
après avoir confessé que nous sommes indignes et que nous nous confions seulement dans les mérites du Fils de Dieu, nous sommes des créatures indignes. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce que nous avons fait. Et maintenant, par la foi, nous nous approchons de la table du Seigneur. Et maintenant, comme ce pain est présenté pour représenter le corps de notre Seigneur, je te prie, Père, de le sanctifier pour le but que tu lui assignes. Et que tous ceux qui y prennent part aient la vie éternelle dans leur âme. Et que tous ceux qui le prennent aient la guérison dans leur corps. Et qu'ils vivent le temps que tu leur as donné à vivre. Et puissent-ils se servir tous les jours de leur vie, et qu'ils soient ressuscités au dernier jour dans la résurrection pour être rassemblés avec ceux de la terre qui sont rachetés par le sang de Christ. Accorde-le, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, il prit aussi la coupe, et quand il eut soupé, il dit, voici la coupe du Nouveau Testament. Aussi souvent que vous en buvez, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Père céleste, nous te présentons le fruit de la vigne ce soir, ce vin. Et nous te prions, Père céleste, que tu sanctifies ce vin. Il représente le sang qui fut répandu pour nous au calvaire. Par ce sang, nous avons la rémission de nos péchés, par la foi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Pardonne-nous toute notre incrédulité et donne-nous la foi et la compréhension. Et fais de nous tes serviteurs, Seigneur, pour que nous puissions te servir toute notre vie. Sois avec nous, Père, alors que nous nous assemblons autour de cette table, et bénis-nous dans cette bonne communion fraternelle et dans cette communion avec toi. Et puisses-tu parler à nos cœurs et nous montrer le travail que nous devrions faire. Accorde-le, Seigneur, sanctifie ce vin pour le but qui lui est assigné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous le demandons.